bien. J'ai l'impression qu'il y a des groupes qui sont tombés amoureux, d'autres ça s'est très mal passé. Non, pardon. Et là j'ai une migraine et j'ai plus aucun filtre, je préviens.
On
n'a
pas peur de ça,
c'est gag. Non. Non, peut-être deux choses le design, pour le coup, vraiment, de l'organisation, je me suis rendu compte, et je peux pas, alors je peux ni me dédouaner, évidemment, parce que, voilà, mais j'ai fait confiance à cette méthode de pensée dont moi, je suis complètement ignorante, et j'ai bien compris, en passant dans les groupes, qu'il y avait, bon, d'abord, un biais idéologique que je peux pas du tout revendiquer, donc je suis désolée pour ça, pour ceux qui... Mais bon, en même temps, c'était dit dans la consigne « exploser le cadre ». Et par ailleurs, parfois des amphigourismes et des phrases un peu complexes pour dire des choses. Donc, désolée pour ça, j'espère que ça ne vous a pas posé problème. J'ai quand même l'impression, en étant passé un peu partout, que même dans les groupes où c'était moins simple, c'était très passionnant ce qui s'est échangé. On avait plein d'indices, il y avait aussi Broto, Ira. Le podcast apparemment va être en fait un podcast comique. Mais vous n'êtes pas le seul à avoir eu des fous rires. Et la fiction du futur n'avait pour seul objectif que d'étendre, en fait, de mettre l'accent sur les zones ou les questions qui nous étaient posées sans se préoccuper de tout le reste. Parce que la mission n'était pas non plus de résoudre l'intégralité des problèmes des politiques culturelles, de l'écologie, de la politique, des relations sociales et de la démocratie. Donc, bon, voilà. Et comment on procède? Est-ce que ça vous va si on fait écouter les audios et si les groupes veulent prendre la parole, raconter des trucs, s'il y a des groupes, enfin, on le fait au feeling, quoi, on y va comme ça. Anissa, ça te va, Anissa? Si on commence par ton où
est-ce que... Elle a dû partir.
D'accord. Mais donc ces groupes.
C'est le groupe d'Anissa.
C'était quoi déjà?
C'était la centrale nucléaire.
La centrale. Donc on met votre audio.
Ah bah si. Vous avez le choix.
Allez, vas-y.
Alors, je suis en direct de Brévis en plein cœur du Finistère, où se prépare demain, toute la journée, un événement exceptionnel ici au niveau de la centrale. Madame Laclaque, vous êtes donc l'artiste qui a chapeauté tout ce projet gigantesque. Pourriez-vous nous en dire plus?
Alors, ce projet s'appelle Des Paysages et nous avons choisi de mener cette journée spectaculaire sous forme d'un procès. C'est extraordinaire, qui va réunir toutes les parties concernées par les décennies de présence de la centrale nucléaire dans cette partie du territoire. Et le procès dont on ne connaît pas d'ailleurs la finalité. Et ce spectacle va se terminer avec un grand geste spectaculaire qui s'appelle le caramantrain électrique. Qui sera vu depuis les planètes environnantes de la Terre.
Et dont on ne dira rien pour ne pas divulgacher l'effet. Monsieur Leconte, vous êtes dramaturge du projet, historien de formation. Comment avez-vous procédé pour ce travail?
Eh bien, j'ai recueilli les témoignages, les documents, les ouvriers, voilà, les aussi des associations. J'étais contre la construction de cette centrale nucléaire, j'ai été frappé notamment par ce slogan, vu que les mondes arrivent et dénucléarisés.
Oui, c'est vrai, c'est assez polémique,
finalement. Tout à fait, et la pièce rendra compte de ces récits contradictoires.
C'est tout l'enjeu. Et Madame Laplace, vous avez géré, si je veux dire, finalement, la lien, la médiation avec tous ces publics, avec tous ces participants différents, si différents les uns des autres. Comment avez-vous pu réussir cette histoire, finalement, de faire en sorte que tout le monde se rencontre?
Eh bien, j'ai travaillé étroitement avec M. Leconte et Madame Laplace.
Il y a un fou rire de...
de théâtre qui a eu tout, et on a pu faire de nombreux ateliers, compris les costumes, qui permettent de rejoindre en fait tous ces publics très différents et qui ont des visions différentes de ces centrales, voilà, autour de
de ce carnaval contemporain. Merci beaucoup. Rendez-vous donc demain à Brénélis à partir de 10h du matin, juste au bout de la nuit. Et je rends l'antenne à l'un des trois favoris.
Super. Vous voulez dire un petit mot, quelque chose ou...
On a bien rigolé.
Nous aussi.
Merci. Bon, c'était très bien. C'était épuisant.
Merci à
vous. Merci à vous. Merci à vous.
Et vous n'êtes pas sorti, vous ? Vous n'êtes pas sorti pour enregistrer ?
On n'est pas sorti pour enregistrer.
Ah ouais, alors ça va être...
Il faut qu'on dise un mot avant.
Bah, ouais, peut-être quand même de raconter ce que vous voulez. Parce qu'on fait ce qu'on veut.
On parle pas de... Enfin, on sait pas de quoi on parle, parce que...
Non, mais...
Personne ne sait sur quoi vous allez travailler, donc il faut quand même vous dire deux mots. Oui. Alors, on devait choisir un lieu moche, lieu dit moche, pour... et on avait une bourse qui nous permettait, pendant un an, de faire une programmation, d'essayer de venir re-questionner l'intérêt général
C'était l'idée, c'était de rendre lisible l'intérêt général de la création en art vivant et de la culture, puisque soi-disant, ils ne le sont plus aujourd'hui, le secteur culturel et le secteur du spectacle vivant, peinant beaucoup, visiblement, à faire valoir ses missions d'intérêt général. Donc, dans le cadre de cette bourse, l'idée, c'était qu'on était l'équipe lauréate de cette bourse avec un financement illimité et qu'il fallait choisir donc un site réputé moche pour y mener un projet qui réponde à cette difficulté de faire valoir les missions d'intérêt général de l'art.
Et donc, nous avons choisi, on dit le lieu ou on laisse découvrir ? On peut dire le. Nous avons choisi l'usine métallurgique de Fumel.
Ah, c'est
bien. Parce que
c'est canon, cet endroit. Mais,
on est parti d'un lieu connu, quoi. Où on pouvait un peu tisser des liens aussi avec l'histoire et ce territoire. Moi, je connais un peu. C'est bon. On peut écouter ou peut-être après on peut dire trois mots sur des choses qui ne seront pas claires dans l'audio.
Ouais, très bien.
Vous pouvez écouter,
et
après on en reparle.
Ah, Nicole. Oui. Nicole, c'est Maxime, le fils de Bernard.
Bernard
de Fumel. Bernard de Fumel, vous avez aussi son nom de jeune à lui.
Oui, bien sûr,
bonjour
Maxime.
Tu vas bien?
Ouais, c'est bien,
ça va, super. Écoute, je t'appelle parce que, comme tu sais, peut-être une usine à Roubert.
Vu les échos de
qui se
passait des choses,
j'ai pas
compris.
Mais... Eh bien, c'est pas l'activité métallurgique qui a revenu, tu m'imagines bien.
Ouais,
bien
sûr.
On a eu un appel là que les habitants et les artistes viennent réinvestir le ligne. Donc, bah, depuis quelques temps, là, on a plein d'artistes professionnels, plein d'habitants de Fumel qui viennent tous les jours, 24h/24,
quand même. C'est un peu
près. Comme à l'époque, des fois plus. On a même papa qui signe à réparer une voiture là-bas, au milieu de Jacqueline Lambert, la plasticienne, qui me fait ses belles. Et Gérard Pichon, le violoniste, qui est venu faire un concert. Gérard Pichon, qui est venu faire un concert. Et Jérôme d'ailleurs, au piano, un petit concert quand même important, qui a des structures de partout. C'est vraiment génial. Et on a eu ce concept, donc, de refaire le produit. J'ai essayé de faire ça. Même Lucas, mon cousin, c'est un enfant, ça n'allait pas trop. finalement, le projet s'est mis à monter une association pour faire le repas et on l'a tout le monde.
Oui, c'est un repas sur place aussi.
Et oui, par rapport, on a eu une forte retraite. Grâce à nos loges, on a donné une retraite fabuleuse. C'est vraiment génial. Moi, depuis le début de l'année, la vie a été pleine de mouvements. C'est un mouvement partout, c'est génial. En vrai, ce jeune, on appelle.
Oui,
je vois. Ouais, ce jeune, on voit. Parce que là, on arrive bientôt à la fin de l'année, à la fin de ce cycle fabuleux. Et l'idée qu'ont eue tous les artistes qui se sont rencontrés dans l'usine, ce serait de créer une grande parade qui commencerait aux heures d'entrée et qui irait aux heures de sortie de l'usine. Donc, on arrive dans le bois pour ramener du monde.
Peut-être dire qu'on est parti du coup du lieu, ça nous paraissait logique avec le paysage, on est parti de cet espace, donc c'est une usine qui a fermé, et d'essayer de comprendre les manques qu'elle créait sur un territoire et qui sont aussi des manques de mouvement, c'est-à-dire que ben, quand il y avait les 3-8, à certaines heures de la journée, de la nuit, les rues étaient, ben, quand il y a 300 personnes qui sortent de l'usine, ben, ça se vit, ça se sent. Et là, aujourd'hui, Fumel est une ville où il n'y a plus ce mouvement-là. Donc on s'est posé cette question de comment recréer le mouvement d'une ville, quoi. Et en sortant complètement de toute activité marchande.
Bien. Ah, les mails arrivent. Mais Stanley, elle me l'a envoyé deux fois.
Oui, parce qu'on pensait que vous ne l'avez pas reçu.
Stanley, c'est ce qu'on vient d'écouter.
Oui.
Alors, on peut écouter celui que m'a envoyé Manuel, donc c'était le groupe Neuilly-sur-Marne.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que vous voulez en parler d'abord ou... ou pas?
Peut-être on peut écouter et en parler après, ça me parle.
Bonjour chers auditeurs, nous sommes avec l'artiste Viviane Rousset. Pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît, de votre installation Les murs ont des oreilles, votre installation sonore?
Oui, alors bonjour à tous et à toutes. C'est une installation qui a été réalisée sur une commande de la ville de Neuilly-sur-Marne autour des deux hôpitaux psychiatriques de la Maison Blanche et du Frac, pour le dire rapidement. Et l'idée de proposer aux habitants pendant un an. Des espèces d'hallucinations sonores présentes partout en ville qui retracent un petit peu l'histoire de la folie et des intérêts dans cette ville.
Oui, c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le projet artistique?
Oui, en fait, l'idée, c'est de faire sortir ces paroles, de faire entendre nos villes se refouler de la ville autour de l'environnement pour pouvoir le présenter à l'ensemble des habitants et des habitantes. C'est un travail qui s'est réalisé vraiment avec l'ensemble des habitants et des habitantes, autant d'installations sonores, il y a autant des témoignages d'internés, de soignants, d'habitants, de voisins des hôpitaux, et aussi des compositions plus musicales, ainsi que des fictions sonores à différentes échelles, qui vont de la légère hallucination auditive installée sous un banc à au parcours historique qui permet notamment de présenter des grandes figures, près de
ce serait intéressant, quelle a été la réception du public?
Bien, globalement, le public a été très réceptif. Nous avons eu autant des bons retours que des personnes peut-être un petit peu choquées par les propos qui peuvent être tenus par les membres des presses de certains internés. Mais pour nous, c'est l'intérêt de notre démarche, c'est aussi de ne pas présenter que le positif positif et de pouvoir, grâce à notre dépendance artistique, revendiquer ce passé des nombreux qui, globalement, je pense, a pu émerger grâce à ce travail et cette volonté de la vie.
Donc, vous, c'était les groupes, le métier, le groupe des métiers. Donc, vous avez beaucoup brainstormé avant...
Voilà, on a beaucoup réfléchi sur quels peuvent être les changements, on va dire, dans les conditions de travail et d'accueil des artistes, créateurs, créatrices, justement pour relever et résoudre un peu tous les problèmes qui peuvent se poser à la fois d'indépendance artistique, mais également, je les ai plus tous en tête, mais de contraintes de production, de nécessité d'avoir en réalité plusieurs métiers en un seul, via notamment les questions de concurrence, d'appel à projet, qui obéissent à des logiques globalement néolibérales. Et on a réfléchi et inventé, esquissé une espèce de modèle d'artiste itinérant qui en fait serait choisi directement, d'artiste fonctionnaire qui serait choisi directement par les villes.
Il y a les deux, il y a aussi l'artiste qui fait la déambulation et qui choisit aussi le territoire dans lequel il veut s'investir aussi. Il y a les deux.
Dans le cadre de grands projets biannuels, donc, c'était la contrainte était justement de travailler 2 ans sur un territoire. Avec cette idée que l'artiste irait de ville en ville au fur et à mesure de sa vie pour toujours apporter un point de vue et un regard extérieur sur les endroits où il travaille par rapport aux besoins et à la demande des collectivités.
Et qui puisse être aussi un artiste un peu poil à gratter, comme on l'avait dit, dans le sens où, là, l'exemple était bon de ce que tu avais donné, c'est-à-dire donc une population qui doit revivre un passé refoulé, psychiatrique, parce que c'est 2 hôpitaux qui se font face. Et donc là, on voit bien que le rôle de l'artiste est vraiment dans la cité, dans essayer de soigner quelque part le collectif, tout en posant un point de vue décalé sur les choses, et donc refaire, remettre à la conscience quelque chose qui était resté en fait dans l'inconscient, dans le refoulé, etc., par la création. Donc vraiment, on a réfléchi aussi la place de l'artiste dedans, dans ces nouvelles conditions de travail aussi.
On a beaucoup rebondi sur l'utopie, la proposition.
Oui, j'ai vu.
Parce que c'est vrai que si on sort un petit peu de contraintes, et si on va réfléchir les problématiques justement de l'artiste et l'ensemble de la culture sans les contraintes, et bien quelle est du coup cette place de l'artiste et quelle est aussi la place du commanditaire qui finalement se dit là vraiment j'ai besoin d'un artiste pour faire un travail d'œil de pensée, enfin de guérison sur quelque chose de pensée collective, donc on va essayer d'enchaîner tout ça.
Avec des nœuds assez complexes qu'on n'a pas évoqués là et qui ne sont pas évidents à résoudre entre ce qu'on pourrait appeler des pratiques amateurs locales et des besoins plus ou moins grands, une forme de qualification ou de savoir-faire artistique qui nécessiterait soit de repenser un réseau de formation à l'échelle du territoire, pouvoir avoir des artistes formés partout, ou ce système d'itinérance qu'on a trouvé qui pourrait être une manière de gérer ces questionnements-là. De déserts artistiques ou autre appellation.
J'ai lu, je ne sais plus où, j'étais très là récemment, que le secteur culturel était le deuxième après le secteur hospitalier en termes de fragilité, burn-out, de danger psychique, danger physique. J'étais très étonnée, je pensais qu'on était au contraire là, une des branches les mieux loties. mais...
C'est la restriction financière fait que...
Un jeune gestion, toi.
La contrainte de sa passion de vie, c'est du vide de ta passion.
Oui, oui. Je pensais que j'étais la seule à être en burn-out. Non, mais du coup, la thématique métier, elle était particulièrement... Enfin, je sais pas.
C'est ça. Justement, si ça devient un métier, quelque part, qui devient presque un métier de fonctionnaire dans une utopie où, justement, c'est comme l'enseignant, comme instituteur, quelque part, est-ce qu'on ne peut pas aussi, ça prend pas la possibilité de faire ressortir aussi l'artiste en chacun, donc chacun de nous.
Ouais.
Et du coup, dans ces cas-là, comment on travaille avec l'artiste, quelle est vraiment sa place, c'est poser aussi un peu ces questions de métier. Si aujourd'hui on se soucie plus de comment on doit vraiment gagner notre vie, contraindre un système, comment chacun peut exprimer sa créativité. Donc c'est aussi un public plus créatif, donc il n'a pas peur d'être bousculé. Le public aussi change après sur l'éducation artistique.
Ouais, ça, c'est un beau débat. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense qu'il faut surtout pas demander aux gens d'être tout le monde d'être très triste en même temps que. mais bien sûr, mais c'est clairement le. D'ailleurs, c'est une question un peu transversale, je crois, à tous les groupes, c'est-à-dire comment associer ou préserver la liberté artistique absolument à tous les prix. Tout en essayant de mêler la question des injonctions de politique culturelle, des territoires. J'ai l'impression que tout le monde, d'une certaine manière, s'est posé cette question à son endroit. Parce qu'en fait, est-ce que c'est normal de demander à l'artiste de réparer le corps social comme ça, je veux dire, de lui demander directement, au fond?
En tout cas, il y a une prise de sens.
Pardon, oui, pardon, j'ai lancé le débat.
Il y a une prise de sens exprimée aussi chez les artistes.
Est-ce que c'est normal qu'un artiste meure sur scène tous les soirs aussi, parfois, enfin, il y a aussi souvent cette dimension émotionnelle, parfois,
c'est
dur comme...
Ouais.
C'est pas important quand même que l'artiste, à un moment donné, il puisse avoir une responsabilité sur sa création et que ça soit une responsabilité du point de vue du collectif. Ça me paraît assez logique, comme dans tous les métiers en fait.
Je sais pas. Non, franchement, vraiment, je ne sais pas. Les grandes œuvres, je sais pas, je suis allée voir le spectacle d'Angelica Lidl, c'est parfaitement amoral, immoral, elle s'en fout, elle pourrait pas répondre à la question est-ce que vous êtes en train de réparer le corps social démocratique? Elle en a rien à foutre, c'est pas son endroit et c'est pour ça que ça fait du bien. C'est pas son métier.
Moi, je suis d'accord
avec elle. Mais je sais qu'on a flirté avec cette question.
C'est l'œuvre que tu peux éventuellement réparer parce qu'elle donne. Tu ne peux pas investir à l'art d'une mission guérisseuse.
Non.
En revanche, la force de l'art, sûrement, qu'elle peut.
Oui.
Je pense que c'est plus ça. L'artiste comme porteur d'une œuvre, c'est élégant, c'est pas lui qui doit avoir la mission en tant que personne ou même. Mais la mission, parfois, de l'art peut permettre parfois, de passer sur certaines choses, disons, de réfléchir, faire du deuil, justement, bousculer, traumatiser, c'est aller sur des émotions fortes.
Ouais.
C'est notre conception de l'œuvre aussi, là, quelque part, qu'on est en train de questionner. Hein. C'est-à-dire que l'œuvre est expérience, là, dans cette situation, et donc elle est collective. Ça veut pas dire, et c'est d'où la question de bon, mais quelle est la place de l'artiste qui s'est posé aussi comme question, on n'a pas la réponse. Mais en tout cas, l'œuvre n'est pas l'œuvre de point de vue des Dracs, moi. En tout cas, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, tel qu'on l'a pensé.
Tel que tu as hacké le groupe avec Réseau Salarial.
Rien à voir. Non, c'est plus Salah Dioui. Il y avait un philosophe qui avait parlé de ça, l'art comme expérience. C'est intéressant.
Oui. J'ai envie de rebondir, mais il faut qu'on avance. Oui. Alors, je crois que c'est tout ce que j'ai reçu. Est-ce que...
T'as mis sur WhatsApp, ça t'aide pas si t'as pas WhatsApp Web sur ton ami.
Ah non, mais je dans mon
compte. Et le groupe de Pierre.
Non, c'est pas grave, je le fais comme ça.
Alors, si tu mets de l'autre, puisque c'est possible d'avoir votre image, vos images en même temps.
Ah oui. C'est long, votre truc, ou pas?
Oui, c'est long. Alors, nous, on a fait quelque chose un peu long. J'avais l'inspiration. Les deux personnes qui parlent, en plus, sont plus là, elles sont parties, elles sont en train de rester un peu plus longtemps avec nous, quand même.
Il faut juste vous dire, avant d'écouter et de regarder, qu'on n'est peut-être pas qu'en 2036, on est un peu plus loin, nous. C'est-à-dire à un moment où le niveau de l'eau a monté beaucoup, de très côte a reculé, donc l'eau est là et l'eau est un peu hostile. C'est important de dire ça au début pour comprendre ce que vous allez entendre.
Alors, oui, attends.
Là, ça se passe dans les plages du Jura.
C'est ça.
Faut que je fasse un double. Bon, si je reçois un appel, bah, c'est risque du métier. Hein. Tu peux cliquer parce que attends, j'ai pas assez de mains. Ouais. Tu cliques toutes les 43 secondes.
Bonjour Julien, c'est Ulysse Baratin pour l'écho de la côte, n'est-ce pas ? Votre journal quotidien préféré. Et ce matin, l'Atlantide est arrivée à nous, dans notre port. Vous avez été le premier à avoir la curiosité d'aller voir cette chose qui est arrivée depuis la mer. Et ma première question, ce sera bien sûr pourquoi avez-vous une envie d'entrer en Atlantide ?
Ben, je ne vous cacherai pas qu'au départ, cette Atlantide m'a fait peur, puisqu'elle venait de l'inconnu. Elle venait du loin, on ne savait pas trop ce que c'était, c'est une forme un peu étrange, une sorte de bulle comme ça, une chose ouais, c'est ronde, comme une sorte de boursin sans épines. Et donc ça m'a fait peur, la première impression ça m'a fait peur. Mais autour de cette Atlantide, il y avait comme une sorte d'halo dans l'eau qui faisait que l'eau, qui est largement saumâtre, hein, enfin je veux dire, on a beaucoup de mal aujourd'hui à boire de l'eau, elle est complètement contaminée. Et donc on voyait que l'eau était transparente tout autour de l'Atlantide. Donc évidemment, ça m'a donné. C'était très étrange. J'avais envie de rentrer à l'intérieur. Et là, quand je suis rentré à l'intérieur...
Il y avait un ponton, hein, c'est ça, qui était sorti de l'Atlantide, genre un ponton qui allait sur la plage.
C'est ça. Du coup, évidemment, c'était très pratique, en fait, pour monter dans l'Atlantide. Et quand je me suis retrouvé dans l'Atlantide, en fait, il y avait quelque chose de... Eh bien, déjà, on souffrait des vers d'eau. C'est tout bête, hein. Mais l'eau, c'est la vie. Donc là, ça nous a... Déjà, évidemment, c'est très agréable de se désaltérer. Et puis de rentrer dans un espace, oui, comme, bah, j'imagine, en fait, comme le ventre d'une mère. On rentrait vraiment, on se sentait bien, on se sentait à l'aise, confortable, jusqu'à... Au fur et à mesure, en fait, on a vu que cette Atlantide, il y a des parcs à huîtres en dessous. C'est-à-dire qu'ils produisent des crustacés, et donc il y avait, après le verre d'eau, on avait un endroit... on pouvait aller consommer des crustacés et des huîtres, des moules.
Enfin, qu'est-ce qu'on fait dans cette Atlantide, hein ? Parce que c'est pour ça qui nous préoccupe, c'est-à-dire qu'on peut manger des huîtres, on nous sert un verre d'eau, c'est vrai. Et à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on fait,
en fait ? Ben, en fait, c'est que, évidemment, quand je me suis attablé pour commencer à manger, à boire, on m'a même proposé d'aller me baigner, parce que donc ils ont réussi à faire une piscine à l'intérieur. Et donc il y a beaucoup d'activités autour de ça. Mais chaque activité, en fait, est aussi... dans la piscine, par exemple, il y a des tableaux sur lesquels on peut dessiner. Il y a des choses, je sais pas, ils ont inventé des choses où on peut écrire alors que c'est avec de l'eau et tout ça, ça fait des traces en fait. Et toute l'équipe de cette Atlantide, me semble-t-il, rassemble en fait toutes ces traces que laissent les gens. Il y a même apparemment des gens qui écoutent comme ça pour pas de manière. Inquiétante, hein, mais non, pas du tout, hein, qui sont là et qui partagent avec nous des dialogues autour de la nourriture, de l'eau, des activités autour de la piscine. Et de ça, ils nous disent qu'ils vont créer des formes spectaculaires.
C'est leur terme, hein. Ouais. Formes spectaculaires.
Voilà, donc évidemment, c'est assez excitant puisque donc, nous, on est presque à la base de ça. Puisque c'est avec nos dessins, avec les mots qu'on aura écrits, sur cette tablette magique là, et les discussions qu'on a eues avec eux, parce qu'ils nous posent des questions sur, sur notre vie aussi, sur les choses aussi pour lesquelles on rêve. Voilà. Et donc, ils vont créer des œuvres avec nos rencontres, en fait, de nos rencontres. Avant de partir pour un futur port, d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Donc, j'invite toute la population, bien sûr, à imiter Julien, à jeter un coup d'œil.
Des applaudissements spéciaux pour la personne qui a dessiné les margaritas, qui a créé le logo. Bienvenue.
Magnifique.
Merci.
Mais donc, je ne comprends pas, la programmation de l'Atlantide, c'est fait par les rencontres des gens, c'est ça?
Oui, alors après, on avait prévu quelque chose d'autre, et puis au moment de l'enregistrement, c'est parti aussi un petit peu sur autre chose. L'idée au départ, c'était que l'Atlantide arrive, donc s'amarre pendant quelques temps dans un port, avec une proposition ou deux de spectacle qui existe, et tout le reste est construit par ce qui se passe pendant la période où elle est amarrée, et donc nourrie par les rencontres avec les gens, par les territoires spécifiques, pour à la fois faire du territorialisé et avoir du commun à tous les endroits où elle va.
C'est cool.
Ouais. Ah.
Elle
purifie, oui, là où elle est.
Et elle purifie, ça c'est magnifique.
Ouais. Avec ça, c'est...
purifie.
Et bien d'autres choses qu'il y a dans l'enregistrement d'Ira, mais par pudeur, vous pouvez ça pas entendre ici.
Et les plans, peut-être juste pour dire ça quand même, que vous êtes parti de plans de théâtre utopique jamais réalisés. C'est un livre magnifique qui s'appelle Théâtre en utopie, je crois, ou Théâtre utopique, et qui recense tous les plans d'architecture de théâtre jamais faits, mais qui, parce que c'était des trucs complètement fous et impossibles, beaucoup trop chers à financer, mais qui résolvaient des problématiques, notamment de rapport au public, de comment est-ce qu'on, de quel rapport scène-salle, de comment est-ce que ça tourne, ça, je sais pas, s'envole, se déplace. Et donc c'est aussi comme ça que vous avez eu cette, vous êtes inspiré des plans de, voilà.
Et de l'imagination de Pierre-Louis qui a réussi à nous mettre ça.
Mais c'est trop beau.
C'est super beau. Ah ouais, c'est très beau.
Et après Est-ce que je regarde si j'ai reçu, mais je crois que je Non.
Non.
Tu veux nous raconter d'abord?
Mais en brut?
Je pense qu'on peut inventer un truc.
T'as encore une petite zone de béton, mais pas tellement. Tu peux passer dessus, ils ont gardé comme chemin quand même. Mais après, ils ont tout bougé, donc tu passes à l'endroit où ils ont mis plein de plantes aromatiques. Tu les vois là, toutes ces plantes aromatiques sur ta manche là?
Oui, c'est bon, c'est bon.
Ok. Après, t'as une petite mare, ils ont mis une petite mare avec des roseaux, des chênes, tout ça, tout le pareil. Après, donc, je sais pas si tu vois sur la droite, il y a tout un espace collectif, participatif, des ateliers, ça tu vois?
Oui,
en fait, tu vas nous rejoindre à un moment, il y a comme une espèce de cocktail, mais en fait, là, tous les dormistrains, on a invité à venir observer les dormistrains, donc il faut bien courir. Et puis, on va voir, il y a des scientifiques qui sont là, il y a des artistes, il y a des cuisinistes qui sont là. Et en fait, on ne sait jamais trop à l'avance. En fait, tout ça, souvent, c'est une déambulation, donc on prend pas le temps de justement boire un coup, avoir la restitution de ces artistes culinaires qui sont là en résidence. Tu vas pas bien entendre, mais tu regardes toutes les zones en frise, tu suis l'espèce de labyrinthe, et puis tu vas nous retrouver à un moment. J'espère que vous êtes bien couvert, parce que ça me fait un peu, il y a de grands nages parmi les enfants. Très bien. Normalement, tu vas nous retrouver, tu me rappelles, tu n'as pas trop peur, parce que voilà. Et tu verras après, on va voir le traitement, le traitement, voilà. À tout ça.
À tout ça.
Mais qu'est-ce que c'est?
Non, la vie professionnelle, elle a rien.
C'est le vent, le Mistral.
Tu complèteras, mais en tout cas, ces espaces de friches paysagères qui n'ont pas d'usage prédestiné. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un espace à 5 km d'ici. On a un peu triché, donc on a utilisé les anciennes papeteries qui accueillent notamment l'ex-compagnie L'Utopie, compagnie Aquaforte, les œuvres des rencontres de la photo, enfin voilà. Donc, il y a quand même un usage, mais néanmoins, qui a un espace très, très, très grand, qui a pas d'usage prédestiné. Et donc, ça, c'est le contexte. Et nous, ce qu'on a défendu, on n'a pas réussi à arriver comme ça, sur une espèce de traduction vraiment artistique de ce que ce serait, mais en tout cas, on a plutôt mis des intentions, qui est l'endroit du coopératif. De comment ces endroits mixent très fort les notions de connaisseureuse, qu'on a beaucoup parlé de l'endroit de est-ce que c'est sachant, scientifique, et on a plutôt parlé de connaisseureuse du territoire, donc sur des approches soit environnementales, industrielles, sciences humaines, et donc comme ça des endroits de rencontre, d'expérimentation et de plutôt aller sur une dimension de labo, de recherche.
Ah d'accord, mais donc là c'était une visite,
les rendez-vous du Mistral,
j'entendais pas tout,
c'est pas le jour de Mistral, et du coup c'est un espèce de contre-pied au jour de Mistral, en tout cas à Arles tu ne sors pas chez toi, parce que c'est très désagréable. Donc c'est comment tu prends le contre-pied d'un jour de Mistral, tu restes chez toi, tu sors, on t'invite à sortir, on t'invite du coup comme ça à expérimenter l'endroit de paysage qui a été, on ne sait pas trop en tout cas, retravaillé par différentes couches de connaisseureuses, et donc de venir l'observer de manière un peu comme ça sauvage, et que c'est aussi un argument de venir un peu faire collectif, boire des coups, restitution culinaire et autres.
Oh, c'était super.
Donc, c'est des rendez-vous qui ne sont pas dédiés. Enfin, en fait, c'est bien les jours où il y a du vent.
Les
jours où il y a du vent.
Que les jours où il y a du vent.
C'est les rendez-vous que les jours où il y a du strat.
Ok. Mais c'est le début, on dirait qu'il y a quelqu'un qui guide quelqu'un d'autre. C'est ça, non?
Oui, en fait, c'était un moyen de rester au téléphone pour expliquer un peu le process et du coup cet espace. Quoi. Donc, c'était très clair, mais en tout cas, de dire que c'était un endroit d'expérimentation, puisqu'en fait, l'idée, c'était qu'aujourd'hui, tu es sur ce territoire qui est a priori hyper pollué, c'était un ancien site industriel. Donc, comment c'est un endroit aussi d'expérimentation via le végétal, de travailler sur de la dépollution, tu vois, de la désartificielle, merci. Et donc, de travailler sur aussi la dépollution des sols par les plantes. Donc voilà, en tout cas, on est beaucoup allés, nous, on était groupe écosystème, sur la dimension
doué du baby VLF.
Ouais,
et
oui.
Aussi, comme on peut l'entendre, volons d'arrêter de différencier nous et l'environnement. En fait, on est constamment en train de... Alors, pas seulement à cause de l'article, bien sûr, pas de notre campus, hein, mais on est constamment en train de dire nous et l'environnement. Mais en fait, on fait partie de l'environnement, l'environnement fait partie de nous. Dans certaines cultures, c'est pas dissocié, dans d'autres, ça l'est comme la nôtre. Et le fait de, je pense, de continuer à dissocier ça nous amène à vivre dans des sociétés, enfin, ça fait partie en tout cas de la formation de la société dans laquelle on vit et de tous ces travers aussi, certaines questions qu'on s'est posées aujourd'hui. Voilà, donc l'environnement n'a pas besoin de nous, nous avons besoin de l'environnement. Et nous sommes l'environnement. Voilà. Puis il y avait un autre truc aussi, c'était le processus de création. Alors, le processus de création n'est plus l'artiste qui va créer, mais on est vraiment dans un décloisonnement. Total entre, on dit la création en fait, elle débuterait par les chercheurs, par les universitaires, par les paysagistes, par ici là, et qu'en fait l'artiste soit le vecteur, le transmetteur de cette matière là, qu'il le traduise dans son langage artistique et qu'il le rende digeste pour le public. Voilà, donc on est dans un décloisonnement total et c'est pas l'artiste lui-même dans le process de création seul qui va faire le spectacle en fait, mais c'est l'ensemble des corpus qu'il va fréquenter, donc il va extraire la matière, il va être le traducteur en fait de toutes ces pensées, de toute cette matière récoltée auparavant.
En tout cas, de se dire qu'on pourrait dire, parce que là on parle beaucoup de la question du végétal, comment on pourrait ne pas avoir besoin peut-être de l'artiste, mais en tout cas de défendre que la question de l'acte artistique vient vraiment quoi, complémentarité, autre regard d'une approche du coup, scientifique au sens large, ou c'est une approche scientifique comme une autre, peut-être, de très bien comme ça.
Ah oui, d'accord, je vois. Génial.
J'aime beaucoup l'idée, moi, que ce soit le vent qui décide du jour et de l'heure de se passer un truc. Et au-delà de force 3, 4, tout le monde est au courant que s'il y a force 3, on peut aller voir du théâtre à cet endroit-là.
C'est super.
Et sinon, il n'y a pas, quoi.
Ça laisse supposer une grande jauge aussi, puisque les gens sont poussés par le vent, donc la visite, elle est très rapide.
Ça dépend sur l'échelle de Beaufort où tu veux être.
Non, c'était super.
Voilà, Céline Dion. On avait une blague avec Céline Dion sous le vent. On a Céline Dion à un moment.
Mais là, on l'a pas entendue.
Non, mais parce qu'elle n'est pas encore arrivée en France. Mais sous le vent, tu vois.
Ah oui, bien vu.
Et on se posait aussi la question, ces récoltes, c'était pour quel usage, quelle finitude ou quel...
Alors, on va vous piquer toutes les idées, faire des spectacles.
Bonne chance, alors.
Oui.
C'est du transfert. C'est juste comme ça.
Exactement. Moi, j'ai pas de... Enfin, je pense que toutes les récoltes de sons, de vidéos, c'est surtout vous, Mathilde, qui... Oui, voilà, je crois que c'est clairement...
En fait, les sons, etc., tout est sur le site internet du programme parce qu'on a envie de mettre à la disposition des gens qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Enfin, voilà, on a un projet avec de l'argent public et c'est normal de rendre aussi aux communautés. Donc, je ne sais pas si tout le monde écoute un long podcast toutes les journées, mais en fait, je pense que si t'as... Je pense que les gens, quand même, quand tu veux travailler sur quelque chose, que tu vois qu'il y a une journée, tu fais l'effort d'écouter fichier par fichier, tu vois. Donc, ça sert à ça, c'est pour la... connaissances scientifiques et le grand public.
On était pas mal à se poser la question, c'est bien de le savoir.
C'est,
Mais effectivement, c'est les...
Non, mais c'est ça. Savoir,
pour l'instant.
Mais vous récupérez aussi les écrits des groupes. Ça aussi, ça vous l'inté. J'ai l'impression que tout le travail qu'a fait Ira Voto d'aller passer de groupe en groupe, c'était... En gros, est-ce que les papiers des groupes, vous allez les récupérer aussi et les utiliser ?
Non.
Moi, je vais.
Il y a l'image de Voto, tout ça. Donc, parce que Voto, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, il fait des petites capsules de 3 minutes qu'on met sur une chaîne YouTube et qui permettent. Donc, c'est la fin de la journée, il y a le ministère, tout ça, je peux y aller. Non, mais ça permet de. Alors, ça a l'air évident ce qu'on fait peut-être tous aujourd'hui, parce que c'est pas pour rien qu'on est tous réunis en fait. Chez nous, nos communautés en sciences humaines et sociales, elles sont pas si acculturées que ça, cette manière de faire. Et ça permet de leur montrer, parce que quand on dit on fait une journée militaire, ils pensent qu'il y a un type avec un pupitre, un micro, ses notes de bas de page, son texte, et il y a 20 bus comme ça et ça s'arrête. Et nous, on essaie de leur montrer qu'on essaie de faire, parce qu'à travers tout ça, c'est aussi d'autres moyens de faire recherche pour nous. Ce n'est pas du tout comme ça que, là, vous ne voyez que des gens acculturés. Ça a été l'enjeu de construction du programme pour mon comporteur et moi, c'est de détecter des gens qui avaient l'habitude d'aller vers les autres, vers les professionnels. Ce n'est pas le même langage, j'en ai parlé ce matin, il y a plein de verrous, en fait, c'est très fort. Et donc, l'idée, c'est aussi d'arriver à garder la trace de tout ça. Bon, je ne sais pas, je pense que le CNRS, la direction, et ça ira, tu ne le mettras pas. Ils ont beaucoup, beaucoup de mal à appréhender ce qu'on fait. Là, ça fait 5 jours qu'on se balade. Ils pensent que, bon, on faisait une journée sur la lutte, on a fait de la musique, bon, alors on a fait du théâtre, mais avec un peu de condescendance sur les objets. Et la marionnette,
et le vin aussi.
Et le vin, tout ça en buvant des coups. Or, c'est pas vrai, il y a beaucoup de recherches qui tombent derrière, et c'est une manière de montrer qu'on peut faire recherche autrement. Et sûrement d'ailleurs que je pense que c'est la seule voie qui permettra aux sciences humaines et sociales de ne pas aller dans le mur ces prochaines années. Et je ne le dis pas pour moi, hein, parce que, mais je le dis pour les communautés. On a besoin de vous rencontrer ou de rencontrer. Il y a d'autres sujets, l'industrie culturelle et créative, mais on a vraiment besoin de se tourner. On a, je le redis, quand même une vocation de service public, il y a quand même, on est tous fonctionnaires, CNRS. Et on a quand même ce devoir d'être, tout en gardant de la recherche fondamentale, parce que c'est hyper important aussi, la recherche qui ne sert à rien. Mais quand même, de faire. Non, mais je veux dire qu'il n'y a pas d'objet, il y a un objectif. En fait, voilà, de rendre à la société aussi d'avoir un dialogue vertueux. Voilà, c'est Icard. Je pense que tous ceux d'Icard qui sont là aujourd'hui portent cette conviction. Voilà, mais ce n'est pas si évident. Là, vous voyez que la partie sympa. T'es d'accord? Non, mais je donne un exemple intéressant, parce que ça peut peut-être vous. Enfin, justement, vous pouvez venir à tous nos événements. On organise une journée avec un autre programme, parce qu'il y a 30 programmes comme le mien, mais évidemment aucun sur la culture, et c'est un programme qui est consacré à la vie durable et au bâtiment innovant. Et donc on est très contents, on a des injonctions de faire du lien entre les programmes. Donc évidemment c'est, enfin, bonjour Quantique, on est la culture, qu'est-ce qu'on peut faire? La vie durable et le bâtiment innovant, il y a quand même un terrain de convergence. Et Mathilde, dans ses boulots, là, j'allais voir, donc il travaille quand même sur la vie durable et les bâtiments innovants, mais sans les acteurs de la ville. Donc ils travaillent entre chercheurs, et nous on dit, bah, avec Icard, on va vous amener des vrais gens, et puis on va vous amener un truc qu'on a découvert qui s'appelle l'ANPU, c'est l'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, donc ils font des trucs complètement barrés. Je pense qu'ils ne vont pas en sortir indemne de la journée de Noël, bien désolé, mais en fait il y a quand même cette tendance, les chercheurs, à travailler sans les citoyens, sans, en fait, en surplomb. Et nous on pense justement que c'est une position qui n'est pas souhaitable ni tenable, parce qu'en fait, vous êtes notre terrain, et on peut aussi vous enrichir par, nous on est là aussi pour prendre de la hauteur en fait, pour arriver à faire de vos cas particuliers aussi des généralités, en comparant, etc. Donc on a besoin, je pense, les uns des autres. Mais souvent on a la même question que vous, enfin, vis-à-vis de vous et vis-à-vis de nous, c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert la culture? À quoi ça sert la recherche? Et là c'est intéressant quand on arrive à joindre les deux. Voilà. La parenthèse conclusive de mon côté.
Parce qu'on n'a rien dit sur votre groupe aussi, est-ce que tu veux garder la...
Alors, notre groupe, non mais c'est intéressant, nous on a eu beaucoup de mal à converger, on s'est pris la tête avec plein de choses, mais c'était plutôt très intéressant. En fait, ce sur quoi on a convergé, alors nous on avait la question, c'était, on est jumelés entre une Y qui s'appelle, j'ai oublié le nom, Sifnos, et la ville de
voilà. Voisin.
Et donc l'idée, c'est comment on fait pour, avec toutes les contraintes écologiques, arriver à créer quelque chose qui fasse commun aussi pour les deux populations. Alors on en arrive à des très maigres conclusions, on s'est pris la tête sur plein de choses, mais déjà on s'est dit, ça peut pas être du tas de parler. Parce qu'en fait, moi, si j'ai pas du tout envie d'aller écouter une pièce grecque, en fait. Enfin, de rien comprendre. Donc on a réfléchi sur qu'est-ce que ça pouvait faire au point de vue esthétique. Après, on a réfléchi comment on faisait avec les contraintes écologiques. Et c'est après que ça s'est effondré quand il y a eu le jeu de Jérôme. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, on a dit, on va faire des jumeaux numériques avec les différences. Et là, il y a eu un gros clivage entre ceux qui ne croient pas du tout à la technologie. Non, c'est pas ça. On a dit, comment est-ce qu'on peut faire pour... quand on est un metteur en scène, faire du test paysage via un jumeau numérique sans sentir les odeurs, voir la vraie couleur du ciel, rencontrer. Voilà. Et en fait, on est quand même arrivé à une impasse, on s'est dit, bah, le jumeau numérique c'est bien, mais peut-être pour que le metteur en scène grec arrive à travailler sur un site français depuis la Grèce chez lui, mais on n'arrivera jamais à sauter l'étape de venir sur place voir des vrais gens.
On a quand même instauré une chose importante, qui était la mise en place du congé culturel,
oui.
C'est-à-dire comme un congé sabbatique, un droit universel, tous les 7 ans, voilà, de s'absenter un mois, pour que la liaison entre Montflanquin et les Grecs puisse se faire par voie fluviale, cycliste ou maritime, et que voilà, les échanges d'habitants puissent se faire aussi dans la durée et dans la rencontre. Mais nous, on est parti du postulat qu'il n'y avait plus de structure, qu'il n'y avait plus de bâti, et donc on récupérait les budgets de l'Opéra, mais qu'on était vraiment dans de la performance nature sans technique. Voilà. Donc à l'état naturel pur. Voilà. D'où la limitation, s'il n'y a pas de traduction vidéo, de, voilà, on était vraiment sur de la performance musicale, chorégraphique ou en tout cas visuelle. Mais vraiment dans l'état de nature pure. Enfin, élément naturel, 100%.
Bah après, on s'est pris la tête sur plein de trucs, genre, est-ce qu'il n'y a plus que du tel paysage parce que, en fait, est-ce que c'est une volonté étatique très très forte? Non, mais justement, de couper tous les. Vu qu'il n'y a plus de tout de structure. Enfin, bon, après, on est monté dans des grands débats, donc on avait du coup dans les restituer, mais ça s'est délivré.
Eh bien, bravo à tous et toutes, et merci.
Alors juste avant qu'on se sépare quand même pour vous dire, donc on a dit ce matin plein de remerciements, mais je recommence quand même un peu, Marie, qui prend des situations. Mathilde qui a pensé beaucoup de choses dans cette journée, mais qui n'était pas seule, il y a Alexandre et Camille qu'il faut applaudir. Parce qu'elle n'a pas été présentée ce matin, vous en avez vu certains, vous avez vu Luc aussi, mais dans Détail, il y a aussi Manu, il y a Pierre, et il y a Ira, et il y a Maxime et moi qui voyageons entre Détail et Icar.
Moitié, voilà.
Donc voilà, mais donc pour que vous ayez vu aussi les collègues de Détail.
Merci à Maxime.